accent d'Europe, Laurent Berthaud.
A menti, on ne savait pas, on ne voulait pas. Cinq jours après le yes fracassant à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques ont un peu la gueule de bois. La livre sterling Davis, l'indice de notation Standard & Poor's lui retire son précieux 3e A. Les plus fervents partisans du oui traînent des pieds et certaines entreprises menacent d'aller voir ailleurs. Révélateur de cet électrochoc, le succès d'une pétition en ligne réclamant la tenue d'un second référendum. Près de 4 millions de personnes ont déjà signé le texte. Certains remettent bien en cause la validité de cette pétition, évoquant des fraudes. Une commission parlementaire devait d'ailleurs se prononcer sur sa validité ce mardi. Le ministre des Affaires européennes, David Lidington, a d'ores et déjà exclu la tenue d'un deuxième référendum. Il n'empêche, les partisans d'une nouvelle consultation sont plus remontés que jamais. Marie Billon les a rencontrés.
Depuis vendredi, ils se retrouvent spontanément en petit comité devant Westminster sur Parliament Square. Ils espèrent que lorsque la Chambre basse débattra de cette fameuse pétition, elle prendra les choses en main.
Je veux qu'on refasse ce référendum parce que c'était une consultation. Les résultats n'engagent pas le gouvernement. C'est le Parlement qui a le pouvoir d'accepter son verdict ou non.
Et c'est vrai que légalement, rien n'oblige le gouvernement et le Parlement à suivre ces résultats. Un député travailliste, David Lammy, a déjà appelé ses collègues à arrêter cette folie. Mais pour l'instant, il est le seul à adopter ouvertement cette position. Selon lui, il faudra un second référendum un jour ou l'autre, mais pas forcément tout de suite. Il faut que les choses se calment et que le pays se réconcilie. Les esprits sont effectivement échauffés après une campagne violente.
J'exige un nouveau vote. Je ne crois pas que les partisans du Brexit s'imaginaient l'emporter. Et ce n'est pas ce que les gens voulaient. On leur a menti. Je crois que beaucoup de ceux qui ont voté le Brexit le regrettent maintenant.
On entend effectivement parler du Brexit, un hashtag très utilisé sur les réseaux sociaux ce week-end. B comme britannique et regret signifiant regret. Je ne pensais pas que mon vote compterait, écrit l'un. J'ai cru en leur mensonge, dit une autre. Nigel Farage, le chef du UKIP, est en effet déjà revenu sur une promesse. Tout l'argent envoyé à Bruxelles ne reviendra pas au système de santé nationale. Certains auraient même déjà appelé la commission électorale pour demander à changer leur vote. Mais même ceux qui réclament ce nouveau scrutin l'espèrent en fait à moitié.
Je suppose que je n'y crois pas vraiment, mais on ne sait jamais. Les gens n'ont pas fait le bon choix parce qu'on les a trompés. Ce serait bien de leur donner une seconde chance. Ce sera un vote démocratique, celui-là aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Pourquoi ne pas faire 3 référendums ? Comme ça, on sera sûr que les gens qui ont voté n'étaient pas sous, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais soyons réalistes, il n'y aura pas d'autre référendum. On est foutu.
Ce jeune homme de 26 ans n'a pas utilisé le hashtag en vogue sur Twitter « Not my vote », ceci n'est pas mon vote, celui que la jeune génération utilise pour désavouer les résultats. Mais beaucoup ont besoin de faire entendre leur voix.
Nous sommes beaucoup à penser « ce n'est pas mon vote ». C'est important de le dire, surtout pour les jeunes, parce qu'on n'a pas la même vision de l'Union européenne. Et ça peut peut-être changer la manière dont les gens voient ce résultat, ou même influencer les négociations et la suite des événements.
Mais David Cameron l'a dit, il n'y aura pas de seconde chance. Pourtant, son possible successeur Boris Johnson, l'ex-maire de Londres qui a mené la campagne pour le Brexit, dit maintenant que rien ne presse et que le Royaume-Uni devra rester proche de l'Europe. Theresa May, la ministre de l'Intérieur, dont le nom circule également pour le poste de Premier ministre, a pour sa part fait campagne pour rester au sein de l'UE. Si le ou la prochaine chef de gouvernement décidait d'organiser une élection anticipée avec un programme stipulant clairement qu'il ou elle veut annuler ses résultats ou organiser un nouveau référendum, le vainqueur aurait le mandat pour le faire. C'est la stratégie que les libéraux-démocrates ont déjà ouvertement adoptée. Sauf que les 17 millions de Britanniques qui ont voté pour la sortie ne veulent pas entendre parler de ces manigances.
Ils font les grincheux. Ils ont perdu. On est sorti, un point c'est tout. Il faut qu'ils s'y fassent. On a déjà voté une fois, on ne va pas recommencer alors que les résultats pourraient être les mêmes.
Où est-ce que ça s'arrête alors ? Au troisième référendum ? Du moment qu'on commence à faire ça, on piétine la démocratie. On ne peut pas changer les règles rétrospectivement. Si on fait ça, on va descendre dans l'anarchie. Il y aura des émeutes, j'en suis certain.
Le Royaume-Uni est un pays divisé. Après ce vote, les fissures sont multiples. Entre jeunes et âgés, entre villes et campagnes, entre les plus riches et les plus pauvres. Tout le monde semble d'accord pour dire qu'un nouveau référendum ne ferait que retourner le couteau dans la plaie.
travaillons actuellement pour l'Europe.
Alors partira pas, alors que les partisans du Brexit ne semblent pas pressés d'entamer la séparation, les dirigeants européens, eux, voudraient accélérer les choses et trancher le cordon une bonne fois pour toutes, histoire de mettre fin à une incertitude préjudiciable à la bonne santé de l'Union, et pas question non plus d'un Brexit à la carte. À l'inverse, le Brexit britannique dope les espoirs des eurosceptiques et europhobes. Présage-t-il d'autres référendums de même nature en Europe? Faut-il s'attendre à un exit, sous-exit, d'annexit, frexit, it-exit? Pour en parler avec nous, Daniel Vigneron, notre partenaire de myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, quels sont les pays les plus susceptibles d'être tentés par une sortie de l'UE après ce Brexit?
En général, ceux qui sont déjà fortement gagnés par l'euroscepticisme, voire l'europhobie. Il s'agit des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark. Les deux pays scandinaves sont toujours restés un peu en marge de l'Union et ont refusé d'intégrer la monnaie unique. Ces dernières années, l'euroscepticisme y a grandement progressé dans le sillage de la montée des partis populistes. Les démocrates suédois caracolent en tête des sondages, et si une enquête récente montrait un soutien majoritaire des Suédois à une union comprenant le Royaume-Uni, ce soutien tombe à 32% si le Royaume-Uni quitte le bateau. Donc, la probabilité d'un Swexit vient de se renforcer. Quant au Danemark, le parti du peuple danois soutient depuis l'an dernier l'actuelle coalition libérale et il a fortement influencé le gouvernement en matière de politique migratoire. Ce n'est pas un hasard si 53% des Danois ont rejeté en décembre dernier un renforcement de la coopération européenne en matière de justice et de police. Cela dit, même les populistes danois de DF reconnaissent qu'il n'y a pour l'instant pas de majorité en faveur du Danexit. Mais si le Royaume-Uni négociait avec l'UE un nouveau traité sur mesure, DF se dit tout à fait prêt à exiger la négociation d'un traité similaire.
Alors vous citiez aussi les Pays-Bas qui sont très eurosceptiques.
Eux aussi, proches des Britanniques, les Néerlandais veulent voir comment se passent les négociations de sortie de l'UE. Le populiste Geert Wilders, leader du Parti pour la Liberté, le PVV, a annoncé qu'il s'engageait à organiser un référendum sur le Nexit s'il devenait Premier ministre. Or, les élections générales se tiendront en mars prochain et les sondages montrent que le PVV est susceptible d'obtenir le plus grand nombre de sièges au Parlement. En outre, les Néerlandais se sont montrés plutôt eurosceptiques depuis 10 ans, d'une part en rejetant en 2005, comme les Français, le projet de traité constitutionnel, d'autre part en répondant non à 61% au référendum informel organisé en avril dernier sur l'approbation du traité d'association entre l'UE et l'Ukraine. Cependant, un sondage réalisé samedi dernier dans le sillage du Brexit montre que si un référendum sur le Nexit était organisé aujourd'hui, 51% des Néerlandais rejetteraient la sortie de l'Europe contre 34% qui l'approuveraient.
Les Pays-Bas dont nous avons d'ailleurs parlé dans l'émission de lundi avec un reportage d'Antoine Moutot. Alors Daniel, quels sont les autres États eurosceptiques ou europhobes ?
On songe évidemment tout de suite à l'Autriche où Norbert Hofer, candidat soutenu par le parti populiste FPE, a bien failli être élu président de la République le 22 mai dernier. Et le FPE, très anti-européen, caracole en tête des sondages alors que les élections générales sont prévues en 2018. Une enquête publiée en septembre 2015 par l'Institut Robert Schuman montre d'ailleurs que les Autrichiens sont, après les Chypriotes, les Européens qui ont la plus mauvaise opinion en ce qui concerne leur appartenance à l'UE. 37% contre 41% qui ont une opinion positive. C'est beaucoup plus, notons-le, que les Britanniques qui exprimaient l'an dernier une opinion négative à 28% contre 49% une opinion positive. Autre surprise, on constate que les Italiens sont presque aussi nombreux que les Autrichiens, 35%, à considérer négativement leur appartenance à l'UE, alors que les Français ne sont que 25% et les Allemands 19%.
Donc même les Italiens souhaiteraient quitter l'Union, Daniel ?
Pas forcément, Laurent. Il faut faire attention aux questions des sondages. Sous la houlette des populistes du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord, les Italiens ne sont plus du tout les Européens convaincus qu'ils ont été. Et 58% d'entre eux souhaiteraient l'organisation d'un référendum sur l'Itexit. Mais de là à souhaiter majoritairement quitter l'Union, il y a un grand pas. D'ailleurs, un sondage d'Opinion Way effectué le mois dernier montre que 31% des Italiens sont partisans de cet Itexit, mais 52% une majorité donc sont contre. C'est quand même plus que les Français, notons-le, qui sont 26% à être partisans d'un Frexit, ou que les Allemands, qui ne sont que 24%.
Donc pas encore de velléité de départ en France ou en Allemagne.
Aucune velléité certainement en Allemagne. Mais les Français sont beaucoup plus ambigus. Ils souhaitent en tout cas être consultés par référendum à 53% et se disent, selon une étude de début juin du Pew Research Center, défavorables à l'UE à 61%. Cela dit, à en croire les plus récentes enquêtes d'opinion, 35% de partisans d'un Frexit, cela semble constituer une fourchette haute actuellement. Mais cela peut évoluer dans les prochains mois.
Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes pour l'Union.
Tout à fait. L'euroscepticisme ambiant pourrait pousser au départ quelques pays comme la Suède, l'Autriche, les Pays-Bas. En revanche, les pays de l'Est de l'Europe, souvent très eurosceptiques eux-mêmes, ne risquent pas trop de partir compte tenu de l'importance des aides financières européennes qu'ils perçoivent actuellement. En fin de compte, tout va vraiment dépendre de la manière dont les Britanniques et l'Union vont négocier leur séparation. Si cela se passe très bien et que le Royaume-Uni pâtit finalement peu de son Brexit, alors cela risque de désinhiber beaucoup de citoyens déçus par l'Europe, et cela dans beaucoup de pays.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt, Laurent.
L'homosexualité reste un sujet encore tabou dans de nombreux pays du monde, encore plus parmi les migrants qui arrivent sur les côtes européennes. La question est tellement délicate que les migrants homosexuels sont souvent mis à l'écart par leurs propres compatriotes. Une partie de la communauté LGBT a donc décidé de se mobiliser pour eux. Reportage en Italie, à Palerme, de Cécile Debarge.
Sous le chapiteau blanc dressé à l'occasion de la Pride de Palerme, la marche des fiertés de la communauté LGBT, les rubans multicolores tournicotent au rythme du souffle chaud du sirocco. Dans l'assistance, pas un bruit pour écouter le récit de ce migrant ivoirien.
Et quand nous avons été sauvés sur l'eau, après les secouristes, ils nous ont tout donné, la nourriture, les vêtements, tout et tout, les chaussures. Nous étions au nombre de 50 personnes qu'ils ont libérées.
Le voyage en Libye, puis en mer, l'ordre de quitter le territoire, reçu en arrivant en Italie, les difficultés pour survivre au quotidien, voilà les thèmes abordés par les deux migrants ivoiriens et gambiens invités ce jour-là. Aucun d'eux n'est homosexuel et pourtant la communauté LGBT palermitaine a tenu à leur dédier cette marche des fiertés.
Et maintenant nous avons Ida et Mortem de LGSM.
LGSM, l'acronyme signifie « Les lesbiennes et les gays soutiennent les migrants ». Ce mouvement est né en Grande-Bretagne en octobre 2015. Morten Theisen en fait partie.
On pense vraiment que l'on peut être uni dans la lutte. C'est comme quand l'Europe dit que les migrants sont une menace à leur mode de vie. Si vous réfléchissez bien, la dernière fois qu'on a évoqué la menace à un modèle familial ou un mode de vie, c'était la communauté LGBT qui était visée.
Mais concrètement, comment rapprocher deux communautés souvent assez distantes l'une de l'autre? Réponse avec Morten Theisen.
En février, on a organisé une marche des fiertés pour les migrants dans un quartier de Londres qui s'appelle Peckham et où vit une forte population d'immigrés. La marche était menée par des demandeurs d'asile avec un très fort soutien de la communauté LGBT.
Le mouvement britannique organise aussi des rassemblements devant les centres de détention où jette des litres de peinture rose et de paillettes sur les hommes politiques qui tiennent des propos anti-migrants, exactement comme ils ont l'habitude de le faire pour ceux qui tiennent des propos homosexuels. Anna Maria Vasile, elle, envisage la lutte commune autrement.
J'ai toujours pensé que si pour moi qui viens de la Roumanie, c'est-à-dire un pays assez semblable à l'Italie, ça a été difficile de me lier avec la communauté LGBT, j'ai mis presque 10 ans, pour un jeune qui vient de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, est-ce que ce sera possible un jour?
Au sein de l'association Archie Gay, Anna Maria Vasile a donc créé la Migration, une consultation réservée aux migrants pour les aider à s'intégrer, mais aussi pour les appuyer dans leur demande d'asile, car ils doivent démontrer presque systématiquement leur homosexualité devant la commission.
Et puis ils demandent toujours des preuves, une photo, un article de journal, quelque chose qu'ils pourront montrer à la commission. Ce qui est un peu absurde, parce qu'on parle de personnes qui ont traversé au moins 3 ou 4 pays avant d'arriver en Italie. Ils ont fait un voyage sur un bateau de fortune et ont dû jeter tout ce qu'ils avaient sur eux.
Parfois, les questions de certains membres des commissions sont très intrusives. Anna Maria Vasile travaille donc en étroite collaboration avec des médiateurs culturels, mais aussi une psychologue. Il s'agit de préparer au mieux les demandeurs d'asile à cet interrogatoire souvent difficile que décrit Flavia Kahlo. La coordinatrice de l'équipe de médecins pour les droits de l'homme est basée à Raguse et parle d'un jeune Ivoirien qu'elle a récemment suivi.
C'est à 17 ans qu'il a quitté sa famille, parce que c'est à ce moment-là qu'il a compris son orientation sexuelle. Et à ce jeune, la commission a posé ces questions. Mais puisque vous êtes musulman, comment vous réussissez à faire cohabiter votre religion et votre orientation sexuelle? Et puis aussi, est-ce que par le passé, vous avez eu des relations avec des femmes? Le jeune, évidemment, a répondu que oui, il s'était trouvé une fiancée pour cacher son homosexualité. Et là, ils lui ont demandé « Ah bon ? Eh bien, alors vous arrivez à avoir des rapports sexuels avec une femme ?»
Des questions brutales et souvent traumatisantes pour les demandeurs d'asile qui traduisent le scepticisme croissant des commissions face à l'homosexualité des migrants. Toutefois, la plupart de la cinquantaine de jeunes accompagnés par Anna Maria ont fini par obtenir l'asile.
Malheureusement, s'ils reçoivent deux fois de suite un refus de la commission, alors ils s'échappent. Parce qu'ils savent très bien qu'être renvoyés dans leur pays, c'est la fin de tout. Et que la seule chose qu'ils peuvent faire alors, c'est d'entrer dans la clandestinité.
Jusqu'à présent, les demandeurs d'asile soutenus par Anna Maria Vasile étaient tous des hommes et venaient de Gambie, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Bangladesh.
Le 28 juin 1996, pour la première fois dans l'histoire de la République de Turquie, un parti islamiste remportait les élections et accédait au pouvoir à la tête d'un gouvernement de coalition. Au poste de Premier ministre, Necmettin Erbakan. L'expérience sera de courte durée, mais elle marquera profondément le protégé d'Erbakan, un certain Recep Tayyip Erdogan. Le playback du jour est signé Anand Lauer.
Cela se passe il y a 20 ans, jour pour jour. Avec son air bonhomme, sa petite moustache blanche et son crâne dégarni, Necmettin Erbakan devient Premier ministre de la République de Turquie. L'homme a 70 ans et une longue carrière politique. Voilà presque 30 ans qu'il a fondé son mouvement, la Vision Nationale. Pas un parti en soi, mais plutôt une matrice dont sont nés une série de partis, tour à tour interdits pour des accusations d'activités anti-laïques. Un Premier ministre islamiste. L'événement est sans précédent dans la très laïque République de Turquie. D'autant que Necmettin Erbakan ne fait pas mystère de ses intentions. Cet ingénieur formé en Allemagne rêve d'instaurer dans son pays une République islamique. Pendant toute la campagne, il a démontré son habileté à capter les suffrages protestataires. Il s'est approprié le rôle de défenseur des droits des défavorisés, profitant de la faiblesse des partis de gauche et des syndicats, profondément désorganisés par le coup d'État de 1980. Il faut dire aussi qu'Erbakan a introduit en Turquie des techniques de campagne jusqu'alors inédites. Il passe des journées entières dans de petits villages, prend le thé avec les aînés, embrasse les enfants, écoute les doléances. Face aux foules, c'est un tribun hors pair. Il émaille ses discours de promesses enivrantes sur l'ordre juste à venir, rêve d'une communauté musulmane mondiale, pourfend les ennemis de l'islam et ceux de la Turquie, c'est-à-dire le sionisme, l'Europe, l'Occident. L'expérience de gouvernement ne durera pas un an. En février 1997, l'armée signe l'arrêt de mort de cette coalition à travers un ultimatum que les médias qualifieront de coup d'État post-moderne. Erbakan finit par céder et démissionne le 18 juin. Depuis, les partis d'Erbakan n'ont jamais retrouvé le succès jusqu'à sa mort en 2011. Mais l'un de ses anciens élèves a connu un tout autre destin, Recep Tayyip Erdogan. L'actuel président turc a fondé son parti de la justice et du développement en 2001 d'une scission avec Erbakan. Il a retenu ses leçons, il a appris de ses erreurs et il dirige la Turquie depuis plus de 13 ans. L'élève a dépassé le maître.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 universel. Retrouvez tous les sujets du jour sur RFI.fr à la page émission.